Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins.
J'entends le battement de ses ailes, c'est prodigieux, il vole.
N'exagérons rien, c'est tout l'atout.
Et non seulement il vole, mais il parle.
Toutes les langues, je suis interprète, polyglotte, monoglotte, je connais le toucan, l'anglais, le latin, le chinois, le perroquet, bien entendu, et le lion.
Je m'avoue, il est vrai, s'il faut parler ainsi, papillon du Parnasse, et semblable aux abeilles à quoi le bon Platon compare nos merveilles. Je suis chose légère et vole à tout sujet. Je vais de fleur en fleur et d'objet en objet. J'irai plus haut peut-être au temple de mémoire si dans un genre seul j'avais usé mes jours. Mais quoi, je suis volage, en vers comme en amour. L'équipe des Nouveaux Chemins, elle aussi, est composée d'abeilles et de papillons qui répondent aux doux noms de Marianne Chassor, Colomba Grossi, Antoine Ravon et Lucie Tardy, avec Lise Combe cette semaine à la réalisation, à qui je souhaite un très bon anniversaire, Clément Berman à la prise de son aujourd'hui, et l'abeille déguisée en papillon qui vient butiner chaque jour à 10h51, et bien c'est Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Je parlerai tout à l'heure du numéro 274 de la Revue Internationale de Philosophie consacrée au philosophe américain Michael Walzer, avec à la fois des articles en français et en anglais et un entretien de lui en guise de conclusion.
Rendez-vous à 10h51. Le miroir animal, deuxième temps. Après Elisabeth de Fontenay hier, qui a évoqué la philosophie à l'épreuve de l'animalité avec Marguerite Duras et Jacques Derrida, avant Florence Burga, qui demain vous parlera de phénoménologie animale, et Julien Roumette, qui jeudi vous contera l'univers éléphantesque et canin des Racines du ciel et de Chien blanc de Romain Gary, c'est aujourd'hui Patrick Dandré, professeur de littérature française du XVIIe siècle à l'Université Paris-Sorbonne, qui vient vous conter cette fois-ci les métamorphoses animalières du bestiaire de Jean de La Fontaine. Bonjour à vous Patrick Dandré.
Bonjour Adèle.
Grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout, comme un œuf, envieuse s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez ? Dites-moi, n'y suis-je point encore ?» Nenni, m'y voici donc. Point du tout, m'y voilà. Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages.
Alors, Alors pourquoi commencer avec la grenouille qui veut se faire aussi grosse qu'un bœuf, Patrick Dandré, parmi toutes les fables que nous allons entendre en votre compagnie aujourd'hui? Eh bien peut-être parce que c'est, disons, une des plus allégoriques, celle qu'on associe généralement à Jean de La Fontaine et l'utilisation qu'il fait des animaux dans ses fables. La grenouille ici n'est qu'une, c'est réducteur, allégorie de l'orgueil humain qui se gonfle, et la morale à la fin le dit très clairement. Or, là, la façon qu'a Jean de La Fontaine d'explorer, de s'amuser avec le bestiaire va bien au-delà que cette dimension allégorique, Patrick Dandré.
C'est une évidence. Le travail de La Fontaine, et c'est en quoi il est poète, a consisté à transformer une nécessité technique, la comparaison, l'analogie, qui à l'origine était le principe même de la fable, on se déplace pour mieux faire comprendre, la transformer en une sorte de bonheur et de plaisir de donner la vie. Il y a quelque chose de biologique dans les fables de La Fontaine, et sa grenouille, elle a cela d'extraordinaire, c'est d'ailleurs assez rare en poésie, qu'elle donne l'impression du halètement et puis de l'explosion. Je ferai un petit reproche à la diction que nous avons entendue.
C'est alors Lambert Wilson sur une musique de Vladimir Kosma.
Bravo. Mais ce n'est peut-être pas assez haletant, vous voyez. Le vers est coupé d'une façon extraordinaire. Alors si on veut donner l'exemple de ce que sont les coupes dans un vers, hein, et ça c'est nenni encore, on voit si bien qu'elle en creva. Et le principe donc, c'est d'avoir donné une sorte de consistance énorme à ce tout petit animal à partir de cette disproportion entre la grenouille qui vit un bœuf. Oui. Et entre les deux, donc, une analogie interne pour faire comprendre l'analogie externe, c'est-à-dire que les hommes, eux aussi, sont gonflés de vanité. Alors, ce principe de base, qui est celui de la fable, qui est un principe de déplacement, d'analogie, La Fontaine l'a tellement animé de vie que, dans les magnifiques vers que vous avez cités au début, et j'ai mieux aimé, excusez-moi de vous le dire, votre diction que celle de Lambert Wilson, vous devriez changer de métier.
Alors ça, on en reparlera.
Donc, dans ces vers du début, La Fontaine lui-même se compare à un papillon et une abeille. Papillon du Parnasse est semblable aux abeilles. Pas n'importe où, dans un discours qu'il a prononcé dans le jour de sa réception à l'Académie française. Donc dans une situation tout à fait honorable, tout à fait solennelle. C'est en 1684, il est déjà fabuliste. Un discours un peu difficile parce que il devait être un peu concessif. Il avait en effet écrit des contes qui ne plaisaient pas pour leur caractère grivois aux académiciens austères. Il devait donc excuser, disons, ses errances. Et tout le monde sait qu'il était d'abord le fabuliste et tout à fait normalement, il se compare à des animaux parce que c'est ce qu'on attend de lui. Et quels animaux choisit-il? Alors là, on voit comment l'allégorie chez lui est habitée d'une multitude de sens, de nuances, de merveilleuses divisions de l'image. Par exemple, le papillon, l'abeille. Pourquoi le papillon? Pure couleur, frivolité, élégance, aller de fleur en fleur pour le simple plaisir de l'envol. C'est le côté du récit, c'est le plaisir d'entendre les fables de La Fontaine. Mais l'abeille, elle virevolte aussi de fleur en fleur, mais elle fait du miel. C'est le caractère fructueux. Il y a donc entre ces deux insectes un peu la même articulation qu'entre le récit frivole et la fécondité morale de la fable en même temps. Ce sont deux images cultivées. Je m'adresse là à la philosophe en vous, Adèle, plus que moi qui ne le suis guère. Mais enfin, on sait que l'abeille, c'est tout de même tout un univers. C'est Platon.
Il fait référence à Platon directement, d'ailleurs.
Voilà, exactement. Et puis à qui Platon compare nos merveilles. C'est en même temps l'idée de l'utile et l'agréable tirée d'Horace. C'est le souvenir de Montaigne qui disait lui-même « Je mêle différentes influences et j'en tire mon miel tout personnel ». C'est donc une manière de montrer, avec l'image du Parnasse aussi, la puissance culturelle d'une écriture à l'ancienne, une écriture faite d'imitations, de fécondations, de références à des modèles précédents. C'est tout l'héritage de la Renaissance qui fait que La Fontaine est encore un humaniste. Et puis c'est aussi une manière technique de présenter les choses. Regardez comme il dit, et la nuance est formidable. Papillon du Parnasse, il est papillon. C'est donc une sorte de substitution, ce qu'on appelle une métaphore. Et semblable aux abeilles. C'est pas une métaphore, c'est une comparaison. C'est une comparaison, c'est-à-dire une similitude motivée. Là, nous sommes dans l'analogie. Dans le premier cas, nous sommes dans le décalage. Vous prenez le réel, vous le transportez ailleurs et vous êtes dans le monde des papillons. Le poète est devenu papillon. Semblable aux abeilles, nous sommes dans la comparaison. Ce n'est plus la substitution, c'est la mise en place des deux éléments l'un à côté de l'autre. C'est l'analogie. La fable va jouer sur ces deux principes. Sur le principe, à la fois, je me transforme en, et c'est vrai, la grenouille, on la voit vivante, c'est un autre nous-mêmes. Et en même temps, on nous dit, nous sommes semblables aux grenouilles. C'est le principe même de la fable. Et en même temps, il y a chez ces deux insectes, Le dernier mot sur lequel vous avez arrêté votre citation, volage. Je suis volage, ce sont des insectes qui volent, effectivement. Et tout cela nous donne une idée qui est celle, disons, de la ductilité du réel, de la ductilité de l'animal, d'un animal qui est, comme par hasard, marqué par la métamorphose. Car regardez, le papillon procède d'une métamorphose et l'abeille procède à une métamorphose. Et la métamorphose, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'hybridité des animaux de la fable. Animaux de la fable qui ne sont ni tout à fait des hommes, ni tout à fait des bêtes. Car souvent, on reproche à La Fontaine de ne pas être bon zoologue. Ah oui, mais les cigales ne font pas ceci. Ben non, effectivement, les cigales ne vont pas emprunter intérêt et principal à leur fourmi la voisine. C'est vrai. Donc, en ce sens, ce sont des êtres humains. Mais en même temps, qu'est-ce qu'elle emprunte? Des grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Elle l'emprunte en tant que cigale. Elle n'est donc ni tout à fait une cigale, ni tout à fait un être humain. Elle est dans une hybridité monstrueuse qui est de l'ordre du fantastique, de l'ordre de la poésie fantastique. Bref, nous sommes dans une sorte de rapport avec l'homme et de remplacement de l'homme. Substitution, analogie. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il fait les deux en même temps.
C'est ça, de même qu'il allie esthétique, puisque le commentaire que vous avez proposé du texte du discours à Madame de Sablière montre bien à quel point l'attention est accordée à chaque terme utilisé, chaque pied dont est composé le vers, et en même temps la dimension, disons, morale de cet écrit.
Exactement. Oui, oui.
Les deux s'entrelacent.
C'est la beauté du papillon et le fructueux de l'abeille, et l'hybridité de ce principe, ça a été de ne plus séparer le récit de la morale à ce degré-là, mais de les fusionner de telle manière que, à l'intérieur du récit, vous avez déjà de la morale, et la morale a une sorte de charme un peu archaïsant, quelque chose de tellement délicieux que finalement, elle ne marque presque plus un décrochement. On a l'impression que l'on continue dans ce ton d'enjouement et que la leçon, oh, elle commence à se dérouler déjà pendant le récit. On ne fait que tirer les conséquences, mais nous savions déjà vers quoi nous allions. Il y a là un plaisir partagé, si vous voulez. Je dirais que la poésie recouvre tout et ce déplacement dans le poétique fait que le symbole, l'allégorie est habité. La poésie
Alors,
de La Fontaine est habitée.
Écoutons un autre exemple de cette utilisation de l'allégorie animalière par La Fontaine avec deux animaux qui lui sont très chers, le loup et le chien.
Le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, sire loup l'eût fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos, et lui fait compliment sur son embonpoint, qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui repartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos parisis sont misérables, cancres, air et pauvre diable, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré, point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit, que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien. Donnez la chasse aux gens portant bâtons et mendiants, flattez ceux du logis, à son maître complaire. Moyennant quoi, votre salaire sera force relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le cou du chien pelé. Qu'est-ce là? Lui dit-il.
Rien. Quoi, rien? Peu de choses,
mais encore.
Le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause.
Attaché? Dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez?
Pas toujours, mais qu'importe.
Il importe si bien que de tous vos repas je ne veux en aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore.
Êtes-vous davantage séduit par l'interprétation de Fernand Ledoux?
Ah oui, tout
Patrick
à fait.
D'André.
Oui, oui.
Beaucoup, très vivante.
Oui, très vivante et pesée et en même temps les deux voix s'entendent. Vous avez remarqué comme les animaux ont de la voix. C'est une fable d'ailleurs, pour relier à ce que nous disions précédemment, qui n'a pas de moralité exprimée.
Exactement, c'est ce que j'allais vous dire cette fois-ci. Elle est vraiment imbriquée dans le texte lui-même. Le lecteur attentif qui pourra en déduire la moralité.
C'est ça, et ça ne diminue en rien à la fois son poids, sa possibilité de sens, sa virtualité de sens, et même d'application. On pourrait l'appliquer à des situations de tout type, peut-être même très récentes. Par exemple, façon de voir la moralité. Parce qu'il y a des gens qui se comportent avec nous comme des loups, faut-il que nous soyons traités comme des chiens par ceux qui nous gouvernent ? Vous voyez, c'est une application tout à fait immédiate sur une certaine urgence. Mais en même temps qu'il y a cette application d'une immédiateté pointue, il y a aussi, de la part de La Fontaine dans le choix de ces deux espèces, bon, qui sont évidemment héritées, mais tout de même, le ressourcement dans ce qu'il y a de plus profond peut-être de l'emblématique de la fable. En effet, ces deux animaux sont peut-être les plus caractéristiques dans leur relation du rapport de l'homme avec l'animal, qui est le sujet de votre semaine, je ne l'oublie pas, puisque s'y manifeste de manière emblématique, je répète, le rapport d'attraction et de répulsion que l'homme éprouve à l'égard de l'animal, en mettant en scène à la fois le meilleur ennemi de l'homme, à cette époque-là en particulier, le loup faisant vraiment l'objet d'une obsession et d'une terreur, et puis d'un autre côté, le meilleur ami de l'homme, le chien, avec donc une dualité bizarre, puisque le loup et le chien, même avant Darwin, on le savait, sont un peu cousins, et que l'on a domestiqué l'un pour faire la chasse à l'autre, ce qui est un rapport avec l'animal à la fois diamétralement opposé, deux attitudes diamétralement opposées, et en même temps quelque chose d'assez similaire, un cousinage étrange. Ça remonte à Abel et Caïn, celui qui avait domestiqué des moutons, et puis celui qui chassait. Et l'un a d'ailleurs fini par tuer l'autre, preuve que l'homme est souvent un loup pour l'homme. Nous avons là donc l'expression très lointaine de la hantise primitive d'une confusion, d'un affleurement. La hantise de l'affleurement peut-être de la bête en l'homme, exorcisée depuis toujours par une image intermédiaire qui est celle du monstre. Qu'est-ce que le monstre sinon un homme qui devient loup ? La lycanthropie, le loup-garou. Qu'est-ce d'autre ? Et en même temps, une hantise de domestication, c'est-à-dire « Oh ben mon chien c'est un peu comme l'enfant de la famille, quoi. Déjà à cette époque et beaucoup plus de nos jours. C'est-à-dire un rapport entre ces deux animaux qui sont presque semblables, qui définit de manière symbolique l'ensemble des rapports possibles, l'éventail des rapports possibles aux deux extrêmes de l'homme avec les bêtes. Une sorte de sentiment de menace fantasmée, exorcisé par un récit qui, chez les conteurs monstrueux, va donner une sorte de traque de l'homme métamorphosé en animal. C'est le mythe de la belle et la bête, de la transformation de l'un en l'autre et de la réciprocité. C'est ce que fait Perrault à la même époque, car n'oublions pas que La Fontaine est contemporain de Perrault, qu'il se connaissait même. Et nous avons là toute une voie de la littérature qui va jusqu'à Kafka, et qui est celle de l'imagerie de la mutation. Le transfert. On parlait tout à l'heure d'emblématique, de métaphore. Ben c'est ça une métaphore, c'est ce transfert. Est-ce que l'homme possède en lui une capacité animalière, en quelque sorte, avec en même temps les métamorphoses de convention, celles de Colette, de Marcel Aimé, des animaux qui parlent. Et puis, de l'autre côté, vous avez face à cette, je dirais, cette transformation un peu menaçante que l'on trouve donc dans les contes de Perrault, la fable de La Fontaine, qui, elle, plutôt que la métamorphose monstrueuse, aime travailler, je dirais, l'hybridité bavarde. C'est-à-dire des êtres qui sont moitié animaux, moitié humains, qui parlent comme des hommes et qui vivent comme des bêtes, avec, chez Perrault, quelque chose de presque pervers, la dévoration. On voit bien que c'est aussi l'invasion du désir. Est-ce que le désir, c'est la bête en moi ? Quel est ce désir qui fait que je deviens loup pour l'autre ? Et puis, du côté de La Fontaine, les hiéroglyphes rendus vivants. C'est-à-dire quelque chose qui est comme profiter de la dynamique de transmutation, de ce moment merveilleux où dans l'animal je repère une voie qui fait qu'il devient humain, pour y creuser une leçon, une vision de l'homme beaucoup moins prescriptive que descriptive, parce que c'est vrai, les femmes.
Mais alors ça, il faut le préciser quand même, parce que justement, nous parlions de morale tout à l'heure, la dimension moraliste, voire moralisatrice des fables. Qu'en est-il réellement? Est-ce que Jean de La Fontaine nous fait la leçon dans ses fables, ou bien est-ce une manière de peindre et de dépeindre à la manière de La Rochefoucauld, hein, son contemporain, l'âme, ce à quoi il assiste, il observe plus davantage qu'il ne juge. Comment faut-il?
On pourrait dire qu'il y a effectivement un glissement, mais qui est contemporain de ce qui se passe partout à son époque, dans la philosophie, dans les sciences, un glissement d'une conception normative, d'une conception obligatoire, peut-être figée un peu, hein, celle des leçons du bon Ésope, la sagesse des nations qui se
dont
transmet.
Dont il s'inspire, hein, Ésope.
Voilà, bien sûr, rappeler. Qui est le patron de la fable, enfin Ésope qui n'a pas existé, mais qui est le nom sous lequel on résume, en somme, et auquel on attribue l'ensemble de ce corpus que La Fontaine a remis en travail. Et qu'il
la première métamorphose se trouve là, d'ailleurs.
Métamorphose
il le dit,
en
d'ailleurs,
poésie, effectivement. Or, ce qui se déduit des fables, plutôt que le rappel de ces vérités d'évidence, c'est, je dirais, quelque chose comme une sagesse méditée, procédant de la transposition même, cette transposition qui, dans la fable ésopique, est utilitaire et véhiculaire, aide à comprendre, aide à imprimer dans l'imagination des leçons d'évidence. On a l'impression que La Fontaine s'en sert autrement et la travaille dans le sens d'une sorte de fantaisie onirique, de fascination qui nous pénètre et nous aide et nous permet de comprendre autrement que par la raison seule, mais par l'imagination et l'émotion, des évidences que nous pourrions trouver simplistes, mais qui se révèlent d'une grande complexité lorsqu'on les met en rêve. Et la fable, c'est un peu la mise en rêve, par l'effet de métamorphose, de notre univers et de l'univers animalier, dont le dialogue est une des grandes interrogations de l'histoire de l'humanité. Ça mérite bien 4 jours que vous lui consacrez, peut-être même 40 jours. Ce dialogue, en somme, cette interpénétration, ce regard porté l'un sur l'autre, ce mélange, je le disais, d'attraction et de répulsion, qui nous amène à regarder l'animal peut-être aussi pour lui-même.
Alors la dimension didactique que vous pointez implicitement de ces fables, eh bien, ne plaît pas à tout le monde. Et il est un auteur, un philosophe qui, en particulier, semble contester cette dimension et trouve qu'elle n'est pas forcément très bien adaptée aux enfants. Il s'agit de Rousseau qui, dans l'Émile, alors qu'il date de 1762, écrit ceci, écoutez. On fait apprendre les fables de La Fontaine à tous les enfants. Il n'y en a pas un seul qui les entende. Quand ils les entendraient, ce serait encore pis, car la morale en est tellement mêlée et si disproportionnée à leur âge qu'elle les porterait plus au vice qu'à la vertu. Ce sont encore là des paradoxes, direz-vous. Soit, mais voyons si ce sont des vérités. Je ne connais dans tout le recueil de La Fontaine que 5 ou 6 fables où brille éminemment la naïveté puérile. De ces 5 ou 6, je prends pour exemple la première de toutes, parce que c'est celle dont la morale est le plus de tout âge, celle que les enfants saisissent le mieux, celle qu'ils apprennent avec le plus de plaisir, enfin celle que, pour cela même, l'auteur a mise par préférence à la tête de son livre. En lui supposant réellement l'objet d'être entendu des enfants, de leur plaire et de les instruire, cette fable est assurément son chef-d'œuvre, mais qu'on me permette donc de la suivre et de l'examiner en peu de mots.
Le corbeau et le renard. Jean de La Fontaine. Maître corbeau sur un arbre perché.
Maître ? Mais que signifie ce mot en lui-même ? Que signifie-t-il au devant d'un nom propre ? Quel sens a-t-il dans cette occasion ? Qu'est-ce qu'un corbeau ? Qu'est-ce qu'un arbre perché ? L'on ne dit pas sur un arbre perché, on dit perché sur un arbre. Par conséquent, il faut parler des inversions de la poésie. Il faut dire ce que c'est que prose et que vers.
Tenait en son bec un fromage.
Mais quel fromage ? Est-ce un fromage de Suisse, de Brie ou de Hollande ? Si l'enfant n'a point vu de corbeau, que gagnez-vous à lui en parler? Et s'il en a vu, comment concevra-t-il qu'ils tiennent un fromage à leur bec? Faisons toujours des images d'après nature.
Maître renard, par l'odeur alléchée.
Encore un maître? Mais pour celui-ci, c'est à bon titre. Il est maître passé dans les tours de son métier. Il faut dire alors ce qu'est un renard et distinguer son vrai naturel du caractère de convention qu'il a dans les fables. Alléché. Ce mot n'est pas usité, il le faut expliquer, il faut dire qu'on ne s'en sert plus qu'en vers. L'enfant demandera pourquoi on parle autrement en vers qu'en prose, et que lui répondrez-vous? Alléché par l'odeur d'un fromage. Ce fromage, tenu par un corbeau perché sur un arbre, devait avoir beaucoup d'odeur pour être senti par le renard dans un taillis ou dans son terrier. Est-ce ainsi que vous exercez votre élève à cet esprit critique judicieuse qui ne s'en laisse imposer qu'à bonne enseigne et sait discerner la vérité du mensonge dans les narrations d'autrui ?
Lui tint à peu près ce langage.
Ce langage ? Le renard parle donc ? Il parle la même langue que les corbeaux ? Sage précepteur, prends garde à toi. Pèse bien ta réponse avant de la faire. Elle importe plus que tu n'as pensé.
Eh, bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur !»
Voilà donc la bonté transformée en bêtise. Assurément, on ne perd pas de temps pour instruire les enfants.
« Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. »
Jamais enfant de 10 ans n'entendit ce vers-là.
« Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. »
Ceci s'entend et la pensée est très bonne. Cependant, il y aura encore bien peu d'enfants qui sachent comparer une leçon à un fromage et qui ne préférassent le fromage à la leçon. Il faut donc leur faire entendre que ce propos n'est qu'une raillerie. Que de finesse pour les enfants.
Le corbeau, honteux et confus.
Autre pléonasme, mais celui-ci est inexcusable.
Jura. Mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
Jura ? Quel est le sceau de maître qui ose expliquer à l'enfant ce que c'est qu'un serment ?
Maître corbeau sur un chêne mastard tenait un frometon dans le clapoir. Maître renard reniflait qu'au balcon quelques sombres zonards débouchaient les flacons. Dis salut Corbac, c'est vous que je cherchais, pour vous dire que sans vous faire mousser le bréchet, à côté du costard que vous portez mon cher, la robe du soir du pan est une serpillière. Pauvre corbeau, tu t'es bien fait avoir, mais quelle idée de becter sur un chêne, et vu que tu chantes comme la reine des passoires, c'est bien coton d'en vouloir au renard.
Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Il est 10h28 et c'est le deuxième temps de notre série d'émissions consacrée aux animaux, l'animal miroir. C'est le thème de cette semaine. Et après Elisabeth de Fontenay, hier, venue vous parler de la philosophie à l'épreuve de l'animalité, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Patrick Dandré, professeur de littérature française du XVIIe siècle à l'Université Paris-Sorbonne, pour vous parler de Jean de La Fontaine et de son bestiaire. Patrick Dandré, qui est l'auteur de La Fabrique des Fables, qu'on trouve aux éditions Klinksic, ainsi que La Fontaine ou les Métamorphose d'Orphée, paru chez Gallimard.
Je le préfère plus coulant. Pauvre corbeau, tu t'es bien fait avoir. Mais quelle idée de becter sur un chêne. Et vu que tu chantes comme la reine des passoires, c'est bien coton d'en vouloir au renard. On est forcé de reconnaître en tout cas que cette histoire de Monsieur de La Fontaine rendit prudent les chanteurs d'opéra. Et c'est depuis qu'il chante la bouche pleine.
La parole est à la Défense. Patrick Dandré, qu'avez-vous à répondre aux objections qui s'entendent de Jean-Jacques Rousseau?
J'ai toujours pensé que Rousseau était un humoriste rentré. Toute la question était de savoir si lui-même le savait. C'est une très jolie caricature d'une mauvaise explication de texte, effectivement. Alors, qu'y a-t-il à répondre à cela? D'abord que lorsqu'il parle d'entendre la fable, hein, entendre, ça veut dire percevoir le sens de chacune des choses. Hein. Il ne conçoit peut-être pas que l'on peut comprendre sans entendre. Car c'est vrai, les enfants ne comprennent peut-être pas tous les mots d'une fable, mais ils comprennent les fables. C'est là le mystère, et c'est là le charme, et c'est peut-être ça la poésie. Parce que vous savez, l'analyse que fait Rousseau, on pourrait la faire sur n'importe quel poème. Hein, parce que la poésie, c'est effectivement une autre langue. Alors, je répondrai par des vers de La Fontaine, hein, c'est à lui de répondre à l'attaque de Rousseau. Il dit à propos des fables, c'est proprement un charme. il rend l'âme attentive, ou plutôt, il la tient captive, nous attachant à des récits qui mènent à son gré les cœurs et les esprits. C'est donc un enchantement. Mais c'est un enchantement qui ne mène pas seulement le cœur, mais aussi l'esprit. De quelle façon? En nous faisant comprendre les choses par un décalage. Or, c'est vrai, nous ne sommes pas peut-être dans la rationalité pas à pas. La fable, elle est écrite pour tout le monde. On sait très bien que La Fontaine feignait de l'écrire pour les enfants, il les écrivait pour les adultes. Ça n'empêche pas que les enfants puissent les aimer et puissent les lire. Mais nous savons que La Fontaine s'adresse à l'enfant qui réside toujours au fond de chaque adulte. C'est donc déjà le premier déplacement qu'il opère, c'est-à-dire qu'il nous demande de nous transformer en enfants, ce que Rousseau ne fait pas très bien parce qu'il ne se rappelle pas qu'il a été enfant. Il n'aurait pas réagi véritablement comme cela. Il est un peu trop pédagogue.
Mais, oui, mais c'était aussi tout son parti pris de dire que justement, oui, que l'enfant n'est pas enfantin, que nous réduisons trop l'enfant à la dimension enfantine.
Ce qu'il ne voit pas, c'est l'infinie profondeur du couple des premières femmes. Vous savez qu'il se trompe en croyant que le corbeau et le renard est la première femme du recueil. La première, c'est la cigale et la fourmi. Le corbeau et le renard fait couple. C'est la même leçon, d'ailleurs, dans les deux cas. Or, cette leçon, elle est beaucoup plus complexe qu'il ne le pense. Lui s'arrête à l'idée de la flatterie, chose comme ça. Ce n'est pas cela que La Fontaine vise. C'est quelque chose de plus profond et, je dirais, de plus philosophique. C'est lisible dès les premiers vers de La cigale et la fourmi. La cigale est enchantée tout l'été, un été qui passe en trois syllabes, ça fait peu pour trois mois, se trouva fort épourvu quand la bise fut venue. C'est un peu long pour exprimer un instant, le moment où on a froid. Et en même temps, on comprend une chose, c'est que lorsque le temps est agréable, il passe très vite, et lorsqu'on a froid et qu'on a faim, ça passe très lentement. C'est-à-dire que La Fontaine établit ici la distinction bergsonienne entre le temps géométrique, le temps des horloges, celui qui tourne en ce moment pendant cette émission, et puis le temps psychologique, le temps que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes. La méconnaissance de la distinction entre ces deux temps, qui est naturelle chez les enfants, les amène à ne pas avoir en eux une précaution qui va être la leçon de ces deux fables, qui est la prudence. Et la prudence, c'est cela que vise à enseigner La Fontaine avec cette histoire de fromage qui passe d'un bec à une bouche, et à une bouche qui, au lieu de le manger, parle et dévore en quelque sorte la leçon. C'est-à-dire que ce que La Fontaine cherche à faire, dans une pédagogie qui est finalement plus subtile que celle de Rousseau, c'est à imprégner un être qui n'est pas encore conscient du flux du temps et de la gouverne du temps, à l'imprégner par une image et par la pénétration dans un univers animalier de cette conviction intime que le temps est une flèche qui va dans un seul sens, ne se rattrape pas, et que la prévoyance, correspondant à une vertu qui est la prudence, constitue le premier moyen de se prémunir contre les dangers de l'existence. Ce n'est pas une haute morale, ce n'est pas de l'éthique, c'est une morale pratique, et c'est ce que vise la fable du point de vue de l'enfant. Ensuite, du point de vue de l'homme, que vise-t-elle ? À faire que l'homme se rappelle qu'il a été enfant. Qu'est-ce que c'est ? C'est une relation avec le temps. Et c'est de nouveau l'idée que le temps a passé si vite, puisque j'aimerais tellement redevenir enfant pour que le bon La Fontaine me raconte des fables. Il le dit d'ailleurs lui-même à la fin d'une fable qui s'intitule justement « Le pouvoir des fables ». Le monde est vieux, dit-on, je le crois, cependant il le faut amuser encore comme un enfant. Et il dit « Si Podane m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême ». C'est donc une leçon triple, adressée aux enfants, adressée aux adultes, adressée à lui-même, qui est celle de la conscience du temps, que l'enchantement de la poésie est capable d'exprimer en nous. Nous sommes un peu loin des animaux, peut-être. Mais les animaux, autre règne, c'est un moyen aussi de nous décaler. Et c'est dans le décalement, c'est-à-dire dans la mise à distance, que nous pouvons faire réflexion.
Nous ne sommes pas loin des animaux, car finalement, c'est peut-être le malentendu qu'on trouve dans le texte de Rousseau vient de là, c'est qu'il fait de la figure animale une figure, une image qui s'adresse aux enfants. Or, et d'ailleurs vous venez de le dire, il est très réducteur que de considérer l'animal comme un simple moyen de s'adresser aux enfants. Et finalement, effectivement, la morale est peut-être davantage accessible aux adultes qu'aux enfants, mais La Fontaine ne revendique pas d'écrire pour les enfants, c'est-à-dire les personnes de bas âge, de jeune âge. Il s'adresse à la partie enfantine en nous, ce qui est complètement différent.
Bien sûr, vous avez tout à fait raison, et il le fait en insufflant dans le décalage que supposait la fable une vertu à la fois poétique, celle de la métaphore, et une vertu philosophique, celle de la distance critique.
On va s'arrêter un instant sur la dimension philosophique, et c'est un autre extrait du discours à Madame de la Sablière qui va nous y aider. Écoutez attentivement, vous y verrez la référence à Descartes, Descartes pour qui l'animal est aussi, disons, peu vivant qu'une simple machine. Écoutez, interprété par la comédienne Judith Henry.
Discours à Madame de la Sablière. La bagatelle, la science, les chimères, le rien, tout est bon. Je soutiens qu'il faut de tout aux entretiens. C'est un parterre où flore épand ses biens. Sur différentes fleurs, l'abeille s'y repose et fait du miel de toutes choses. Ce fondement posé, ne trouvez pas mauvais quand ces fables aussi j'entremêle des traits de certaines philosophies, subtiles, engageantes et hardies. On l'appelle nouvelle. En avez-vous ou non ouï parler ? Ils disent donc que la bête est une machine, qu'en elle tout se fait sans choix et par ressort. Nul sentiment, point d'âme, en elle tout est corps. Telle est la montre qui chemine, à pas toujours égaux, aveugle et sans dessein. Ouvrez-la, lisez dans son sein, mainte roue y tient lieu de tout l'esprit du monde. Descartes va plus loin et soutient nettement qu'elle ne pense nullement. Vous n'êtes point embarrassé de le croire, ni moi. Cependant, quand au bois, le bruit des cors, celui des voix, n'a donné nul relâche à la fuyante proie, qu'en vain elle a mis ses efforts à confondre et brouiller la voie, l'animal chargé d'ans, vieux cerf et de 10 corps, en suppose un plus jeune et l'oblige, par force, à présenter au chien une nouvelle amorce. Que de raisonnement pour conserver ses jours. Le retour sur ses pas, les malices, les tours, et le change, et sans stratagème, digne des plus grands chefs, digne d'un meilleur sort. On le déchire après sa mort. Ce sont tous ses honneurs suprêmes.
Son Rossini et son duo bouffon des chats qui vient illustrer ce texte qui pour le coup est peut-être la meilleure des réponses que La Fontaine fait lui-même à ceux qui l'objecteraient son utilisation réductrice des animaux. Bien loin de la simple transposition allégorique, on y entend que La Fontaine s'intéresse à l'animal pour lui-même, en évoquant, en essayant de donner tort aux thèses de Descartes et de Gassendi d'ailleurs, Patrick Dandré.
Oui, j'aime beaucoup la philosophie quand elle miaule. ce que ce discours révèle, c'est quelque chose qui est une évolution lente que l'on trouve dans la fable, pas dans toutes les fables, c'est l'observation de l'animal pour lui-même. Ça, c'est une grande découverte du XVIIe siècle. Ça va avec l'empirisme, ça va avec Bacon. Et Descartes est un peu un obstacle dans ce domaine, hein, puisque lui, rationalisme, trouve la vérité par l'éviction de la matière, du sensible et de l'observation. On est donc devant un vrai débat philosophique fort au centre du XVIIe siècle, qui reprend un débat très ancien, puisque les sophistes, pour détruire les illusions rationnelles, les stoïciens, au contraire, pour établir la grande scission entre l'homme et tout le reste de la réalité, les poètes du Moyen-Âge et les bestiaires du Moyen-Âge, avec leurs fables merveilleuses, Montaigne, parce qu'il s'intéresse à tout, tous ces gens sont intéressés à ce problème, qui est-ce que l'animal pense, jusqu'à quel degré a-t-il une âme ? C'est la fameuse question de l'âme. Le rationalisme cartésien, en ayant établi la scission, et la scission la plus radicale qui puisse se faire entre d'un côté l'esprit et de l'autre tout le reste considéré comme matière, y compris le sensible, en était arrivé à cette déduction étrange et un peu gênante que l'animal fonctionnait comme une montre, c'est-à-dire avec des ressorts. Il faut bien comprendre que c'est pas du tout une chose que le cartésianisme met en avant. C'est une gêne. Les cartésiens, qui ont succédé à Descartes, est mort à cette époque-là, il est mort en 1650. Nous sommes dans un discours qui apparaît dans les fables de 1678, donc c'est un peu plus tard, et les cartésiens n'en parlent plus de l'affaire, parce que ça les gêne un peu. Mais ceux qui reprennent la chose, ce sont les polémistes, c'est-à-dire les anticartésiens. Alors ce qui est drôle, c'est que ce sont des anticartésiens qui viennent de deux côtés. Il y a ceux qui sont du côté du christianisme et de la doctrine un peu austère, l'Église et l'université, puis il y a de l'autre côté les adversaires éternels du cartésianisme qui sont les libertins épicuriens. C'est-à-dire un épicurisme qui, lui, au contraire, compte sur le sensible. Et les deux ont la même solution à laquelle La Fontaine va venir et qu'il va mettre en vers, et qui est l'idée qu'il y a une hiérarchie progressive allant, disons, du caillou jusqu'à Dieu, en passant par la bête et l'être humain, et que dans cette hiérarchie des âmes, on peut dire qu'une logique du dégradé permet de réévaluer le pouvoir de l'imaginaire, le pouvoir de l'émotion, le pouvoir de la souffrance, par opposition à l'étanchéité qui est le principe de la philosophie cartésienne. L'exposé que fait La Fontaine est à la fois habile et tout à fait convenu. C'est un exposé habile parce qu'il donne la parole aux cartésiens, il ne les réfute pas, il réfute par des fables. Et c'est là tout l'art. Ce discours est d'ailleurs peuplé de plusieurs fables. La première que vous avez donnée est pas nécessairement la plus enjouée, ça monte peu à peu en intensité, et la hiérarchie des âmes qu'il établit philosophiquement, il va la respecter esthétiquement en faisant une hiérarchie des fables. La dernière qu'il va donner dans cette progression, les deux rats, le renard et l'œuf, est une merveille d'affaîtrie, de charme. On retrouve un peu l'œuf de votre grenouille. Hein. Mmh. Deux rats cherchaient leur vie. Ils trouvèrent un œuf. Le dîner suffisait, agents de cette espèce. Il n'était pas besoin qu'ils trouvassent un bœuf. Oui, nous sommes très loin du cartésianisme. Et ça, c'est la réponse. C'est une réponse qui est concrète, expérimentale, souriante et vaguement moqueuse, et qui, en somme, restitue la place de l'animal dans la chaîne du vivant, en l'opposant à cette idée d'inertie, en somme, ou cette idée de mécanique. Bref, c'est un peu le grand combat du biologique contre le mécanique. Alors on dira, bon, La Fontaine est en avance, merveilleux, pensée biologique, modèle du XVIIIe siècle. Pas si sûr. Gassendi, qui avait répondu à Descartes sur ce sujet, c'était le sixième des doutes sur les méditations métaphysiques, avait plutôt remis sur le métier une vieille affaire, cette idée de la connaissance sans conscience, hein, que l'on va trouver aussi chez les représentants de la pensée chrétienne. Si vous voulez, il y a une connaissance sensible qui n'est pas la connaissance spirituelle, mais que peuvent posséder des êtres intermédiaires comme les animaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans le modèle esthétique qu'ici représente la fable, et dans le rapport donc avec l'animal, l'animal sert peut-être effectivement de analogie pour comprendre des choses sur l'âme humaine. En même temps, l'animal est le sujet véritable de la chose. Est-ce que les animaux ont une âme? Et puis surtout, la fable est transformée par un discours philosophique qui demeure une fable, puisque l'exposé philosophique prend la place de la moralité et la contradiction expérimentale prend la place du récit. C'est-à-dire que le système récit-moralité est respecté, mais il est transformé dans une sorte de métamorphose qui fait que on a l'impression qu'avec ce système de base extrêmement serré, extrêmement vissé, hein, récit-moralité, La Fontaine peut parler de tout et de n'importe qui, et de n'importe quoi. Faire un discours philosophique à propos de l'animal, prendre même l'animal pour objet, alors qu'il devrait être simplement le véhicule, le moyen par lequel je parle d'autre chose. Je parle des hommes. Quand il dit « je me sers d'animaux pour instruire les hommes », il est dans la conception véhiculaire. Mais quand il dit « tout parle en mon ouvrage et même les poissons », cette parole donnée fait de l'animal l'équivalent de l'homme. Et nous sommes là dans les deux points extrêmes, vous voyez, et nous ne sommes pas du tout devant un discours austère, comme aurait pu le laisser penser le début de ce texte. Nous sommes encore dans la fable, mais dans la fable triturée, transformée, modifiée, qui fait qu'elle est devenue tellement ductile qu'elle, je dirais, elle est en miniature, l'équivalent de n'importe quel discours humain, poétique, philosophique, moral, social. Dans la fable portique du second recueil de 1678 qui s'appelle « Les animaux malades de la peste », La Fontaine donne ainsi une vision de l'humanité tout entière qui est une merveille.
On va en écouter le début alors.
Parfait.
« Les animaux malades de la peste. Un mal qui répand la terreur. » Mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'envoyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil et dit: mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie aux traits du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger.
Et voilà, vous alliez reprocher à Jean Topard son côté, sa neutralité ou peut-être sa lenteur. Et finalement, on sent quand même l'espièglerie dans sa voix au moment où le loup dit qu'il a mangé le berger, Patrick Dandin.
Ah oui, je ne reprochais pas. Non. Je reprochais parce qu'il est 10h46.
Et que vous n'avez plus que trois minutes pour expliquer ce texte.
Oui. Or, c'est une fable éblouissante. C'est une fable éblouissante. On y a tous les discours
qui continuent, hein, on entend le début. Hein.
Après ce discours politique et un peu religieux, en même temps satirique et juridique, nous allons entendre tous les autres animaux prendre la parole. C'est la société humaine tout entière qui ici se présente dans une brassée de discours. Il y a de l'épopée, il y a de l'élégie. Les tourterelles se fuyaient, comme il dit ça bien, Jean Topard. Les tourterelles se fuyaient, de l'élégie, de la harangue. Le discours, t'as un conseil. Il y a aussi de la comédie, il y a une dimension théâtrale. Les rapports entre l'homme et l'animal sont ici d'une complexité inouïe. Les tourterelles qui fuient, ce ne sont pas des animaux de fable, ce sont les vraies tourterelles. Le lion dévore des moutons. Le lion est un personnage de fable qui a la parole, mais le mouton qu'il dévore, c'est le mouton de tous les jours, celui que vous et moi, nous allons trouver à la sortie devant la porte de la maison de la radio. C'est donc une espèce de jeu sur les parallèles et les interférences qui atteint une maestria. Une puissance, une force de conviction. En fait, la fable est devenue par là l'expression en miniature de toute la littérature, de toute la poésie, de toute la pensée. Et La Fontaine a réussi par là à donner la parole à l'univers entier à travers un genre qui au départ était un genre humble, un genre simple, un genre un peu ridicule, un peu dérisoire. L'histoire des bêtes, quoi. Voyez comme avec les animaux, on peut donner dans une perspective qui est presque celle d'un Lucrèce, la parole à la nature, c'est cosmique, c'est une fable cosmique. Et c'est ce que l'on entend d'ailleurs dans la conclusion, dans l'épilogue du texte, lorsqu'il dit « je crois que vous avez ce texte, non ?»
La fin des animaux malades de la peste.
Non, la fin du recueil des fables tout entier.
Alors, la fin du recueil des fables tout entier, on n'a plus le temps de l'écouter malheureusement.
Ah, quel dommage! Parce que c'est un moment merveilleux, une sorte d'épilogue où il explique comment il donne la parole finalement à... Il se met à l'écoute plutôt de la nature tout entière. Et c'est par là qu'il devient un peu l'équivalent français de Lucrèce. Il dit, je vais le lire si vous le permettez, c'est ainsi que ma muse, au bord d'une onde pure, traduisait en langue des dieux tout ce que disent sous les cieux tant d'êtres empruntant la voix de la nature. Truchement de peuples divers, je les faisais servir d'acteurs en mon ouvrage, car tout parle dans l'univers, il n'est rien qui n'ait son langage. S'il y a langage des bêtes, c'est parce que le monde entier parle à travers la bouche de la fontaine.
Y compris les poissons, c'est vous qui l'avez dit.
Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elles restent muettes. La maman des poissons, elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie, et quand ça a dîné sardine. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman.
Un grand merci Patrick Dandré d'être venu nous parler de La Fontaine aujourd'hui. C'est un plaisir de vous en découvrir. Écoutez, en parler comme à chaque fois que vous venez au micro des Nouveaux Chemins, je renvoie les auditeurs à votre ouvrage La Fabrique des Fables qu'on trouve aux éditions Klingsic.
On les décroche de leur patère. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman.
Vous parliez des moutons de Radio France, alors il n'y en a pas ici, mais en revanche, il y a des abeilles. On peut manger le miel de Radio France, figurez-vous, ce qui nous fait revenir au tout début de l'émission, le texte que La Fontaine écrivait à propos des abeilles et des papillons. Et ça tombe bien, car il est 10h51, vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Et comme tous les jours, c'est l'heure de retrouver les deux minutes. Papillons de Géraldine Mosna-Savoie.
I started writing about politics when I was a child. I published a little hectographed newsletter, mostly for my relatives, called Between the Lines, in which I broke with Henry Wallace in 1948 and endorsed.
Quand on entend le philosophe américain Michael Walzer dire qu'il a commencé à écrire sur la politique alors qu'il n'était qu'un enfant et que l'on voit aujourd'hui son œuvre à 80 ans, on peut se dire que l'on est face à une véritable vocation. Comme le rappelle le dernier numéro de la Revue internationale de philosophie, l'œuvre de Walzer, c'est en effet une trentaine d'ouvrages et plusieurs centaines d'articles. C'est à la fois un engagement dans son temps et à ses débats et l'analyse d'auteurs autant classiques que contemporain. Mais c'est surtout un livre phare paru en 1983, Sphère de justice, dans lequel il développe, contre l'abstraction du libéralisme, l'idée que les principes de justice sont toujours relatifs à leur signification sociale, qu'il n'y a pas d'égalité simple mais complexe, c'est-à-dire des sphères de justice dont chacune a ses propres critères. Walzer dit ainsi « De même qu'il y a plusieurs cavernes mais seulement un soleil, de même la communauté politique est particulière et pluraliste là où la connaissance philosophique est universelle et singulière. C'est que pour lui, il faut tourner son regard vers le fond de notre âme au risque, comme lui ont reproché ses détracteurs, de tomber dans le relativisme. Et comme le discutent d'ailleurs les articles de cette revue. Mais voilà, l'une des figures qu'évoque Walzer n'est pas pour rien Coriolan, le héros shakespearien, ce héros libéral qui veut se détacher de tout ancrage familial et social, et pour le pire. La théorie de Walzer a donc cela de frappant aujourd'hui, soutenir l'appartenance plutôt que l'indépendance, l'enracinement plutôt que la découverte de la lumière, alors qu'il y a en nous, comme il le dit si bien, cette complainte capable d'interpréter les cavernes, ces traditions dans lesquelles on est parfois enfermé.
Merci Géraldine, c'est donc la Revue internationale de philosophie.
De philosophie, donc le numéro entièrement consacré à Michael Walzer est dirigé par Justine Lacroix.
Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée aux animaux, à l'animal miroir, après Elisabeth de Fontenay, lundi, hier, Patrick Dandré aujourd'hui à propos de Jean de La Fontaine. Demain, ce sera Florence Burga qui viendra vous parler de phénoménologie du monde animal. Et jeudi, Julien Roumet vous parlera de Romain Gary, des racines du ciel et de Chien Blanc. Pour réécouter cette émission ainsi que toutes celles de la semaine passée, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, à l'heure qui vous arrange le plus. Rendez-vous également sur nos pages Facebook et notre compte Twitter, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires.